بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. شفان الإسلام نغميسي الله عز وجل كنو دانا possibilité de reprendre, de continuer le tafsir de سورة عبس وتولى. Et nous avons lu les versets 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme sa nature. D'où est-ce qu'il vient? Comment il a été créé? Quelles étaient les étapes de sa création jusqu'à ce qu'il devienne une personne autonome? Et d'un certain sens, Allah Azza wa Jal fait un rappel à l'homme sur sa condition de créature, et qu'il a au-dessus de lui un créateur à qui il doit obéissance. Mais juste avant ça, il y avait un petit point qu'on devait détailler la dernière fois concernant l'histoire même, les circonstances de révélation de la sourate d'Abasa wa Tawalla. Jazakallah khair. Concernant les circonstances de la révélation d'Abasa wa Tawalla, vous vous souvenez, on avait dit que le prophète alayhi salat wa salam avait détourné son attention d'une personne qui était aveugle pour donner plus d'attention à un groupe de notables, parce qu'il avait espoir que ces gens-là embrassent l'islam. Et d'un certain sens, Allah Azza wa Jal lui a fait, si on pourrait dire, entre guillemets, la reproche. Et à travers cette histoire, nous voyons que pour Allah Rabbul Izza, ce qui est le plus important, c'est la sincérité de la foi. Ce n'est pas l'apparence physique, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas le rang, ce n'est pas ce que la personne représente dans la société, mais c'est son degré de ikhlas, son degré de sincérité dans la recherche du contentement d'Allah Azza wa Jal. Et on avait dit que ça donne une autre valeur, une autre échelle de valeur dans la société. Comment considérer les gens, sur quels critères? Alors qu'à notre époque, les critères prédominants, c'est le travail, la profession, quelles qualifications vous avez, votre niveau de vie, votre PIB, votre PNB, et c'est là qu'on vous considérera comme quelqu'un d'intéressant ou comme quelqu'un sans réel intérêt. Alors que de notre dîne, on a à travers cette histoire l'exemple qu'il peut y avoir une personne qui est âgée, qui est aveugle, et qui donc ne pourra pas apporter énormément à la communauté. Il ne sera pas extrêmement utile à la société, sachant qu'il a déjà un handicap, mais en tout état de cause, ce qu'Allah Rabbul Izzah a apprécié chez cette personne, et qui ne se trouvait pas dans ce groupe de notables, pourtant des riches, des gens qui ont une place dans la société à Makkah, des chefs de tribu parmi eux, c'était la ikhlas, la sincérité et le désir de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, on avait expliqué les circonstances de révélation. Maintenant, même dans ces versets qui montrent, on pourrait dire, l'erreur de jugement de la prophète alayhi salatu wa salam, et voyez, là il y a ce qu'on appelle at-talattuf. En aucun cas Allah Azza wa Jal ne fait des reproches directs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, abadan. Parce qu'on avait dit la dernière fois que si le prophète alayhi salatu wa sallam a adopté cette attitude avec cette personne, c'est bien qu'Allah l'avait décrété, lui ou non? Allah l'avait décrété. Et à travers le choix qu'il allait faire, il y aurait eu donc les versets révélés, et donc une leçon pour l'ensemble de la umma, de la communauté. Tout comme on avait expliqué également en parallèle que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam avait été atteint par as-sihr, par la sorcellerie, on aurait pu se dire que mais comment est-ce que Allah ne protège pas son prophète contre ce mal? Est-ce qu'Allah n'était pas capable de le protéger? Bien sûr que oui. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Ils ne peuvent faire aucun mal sans l'autorisation d'Allah. Mais Allah Rabbul Izzah a décidé que ça se passe de cette façon pour que ce soit les circonstances, pour que les versets de Al-Falaq et de An-Nas soient révélés, afin que ce soit une leçon pour la Ummah, pour l'humanité. Afin que, après chaque salat, le croyant se souvient qu'il doit lire les trois mu'awwidhat, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Cela après chaque salat. Et s'il n'y avait pas eu cet événement, on n'aurait pas eu ces sourates, ces chapitres du Coran, et on n'aurait pas su comment se protéger contre ces mauvaises choses. Maintenant, le point justement qu'on avait oublié de préciser, c'est quand on dit Abasa wa Tawalla, à travers la façon, à travers le. Voilà, là on va dire que c'est beaucoup plus technique, à travers la conjugaison et le pronom personnel qui est utilisé, Abasa wa Tawalla, il s'est renfrogné et il s'est détourné. Anja'ahu al-a'ma, parce que l'aveugle est venu à lui. On parle du prophète alayhi salatu wassalam à la troisième personne. Il s'est renfrogné, il s'est détourné. En commentaire, les mufassirin rahimahullah explique que cette façon, et là, comme je dis, ça c'est un petit peu plus technique, il faut avoir une certaine approche des usloub, du ta'bir, de la langue arabe, le fait d'utiliser la troisième personne, ça ne passe pas comme un reproche. Si Allah Rabbul Izzah avait dit Abista wa tawallaita anja akal a'ma, allez, on change le temps, et comme si il s'adressait directement au Prophète, tu t'es renfrogné, tu t'es détourné parce que l'aveugle est venu à toi. Déjà, même en français, on voit le style est un peu plus pesant. On voit c'est un peu plus dur. C'est un discours direct. C'est comme je reproche, tu as fait ça, tu as fait ça. Alors que je dis, il a fait telle erreur, c'est plus, j'allais dire, entre guillemets, soft. C'est moins lourd. Donc on comprend qu'à travers cette façon de mettre en avant le choix du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, en même temps Allah Rabbul Izzah protège le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam et ne lui fait pas des reproches directs. Et on avait dit ça la dernière fois, que c'est une preuve encore, et on n'en avait pas besoin de cette preuve, mais une preuve encore que le wahi, les versets sont les paroles d'Allah Azza wa Jal. C'est comme certains mécréants osent accuser que le prophète l'a écrit lui-même alors qu'il était ummi, qu'il ne savait ni lire ni écrire. Donc pas si le prophète l'avait écrit, na'oudou billah, est-ce qu'il aurait mis en avant ses erreurs, cette erreur? Non, il n'aurait même pas abordé ce sujet. Donc tout ça, ça nous fait encore plus réaliser que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben tout nous intéresse, hein, mais le verset qu'on va essayer de développer inshallah, qutila al-insanu ma akfara. Donc là Allah Azza wa Jal parle de la race humaine. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Dans ce verset, il y a deux ra'y, deux avis. Certains mufassirin, certains commentateurs disent que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit qutila al-insan, l'être humain, en fait al-insan ay al-kuffar, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas cru en Allah, la reproche est faite uniquement à ceux qui ne croient pas en Allah. L'autre opinion qui est plus juste et que nous rejoignons, parce qu'il y a pas mal de preuves et de hadiths qui vont dans ce sens, lorsqu'Allah dit qutila al-insanu ma akfara, que périsse l'homme, qu'il est ingrat, on parle de la race humaine, umouman, en général. Parce que le jour de Qiyam, Allah Azza wa Jal demandera à Adam alayhi salam de faire avancer la portion de insan, de ses fils, les fils de Adam, des êtres humains qui doivent aller en enfer. Et Adam alayhi salam demandera à Allah Azza wa Jal quelle est donc la quantité. Allah Rabbul Izzah demande à Adam alayhi salam de faire avancer sa descendance qui est destinée à l'enfer. Et là Adam demande quelle est cette quantité de personnes qui est destinée à l'enfer. Allah Azza wa Jal dit min kulli alf tis'a mi'a wa tis'a wa tis'in, sur 1000 il y a 999 qui vont en enfer. Ajib. C'est-à-dire 99% de la race humaine doit aller en enfer. Qu'Allah nous protège. Le but n'est pas de développer le hadith, bien sûr, mais quand même, on ne peut pas passer à autre chose avec une mise en garde aussi funeste, parce que ça fait peur. Les sahabas ont eu peur. Et ils ont demandé la question, ils ont posé la question au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis là, la réponse, elle vient en rejoignant d'autres hadiths. Comme on a souvent dit, les textes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, c'est comme un puzzle. On comprend un hadith par un autre hadith. On comprend un verset du Coran même par un commentaire, par un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous rassure, c'est que le jour de Qiyamah, justement, les 99% de ces êtres humains qui iront dans le Jahannam, en majorité, ils feront partie des, si quelqu'un a déjà entendu, des Ya'juj et Ma'juj. Ils feront partie des Gog et Magog. Parce que dans la race humaine, il y a, une fois on a vu un hadith à ce propos, ça fait 3 mois, je n'ai plus en tête les termes du hadith, mais si je ne me trompe pas, 90% de la race humaine, ce sont des Ya'juj et Ma'juj. C'est-à-dire que parmi tous les êtres humains qui existent, apparents ou non apparents, 90% sont constitués de Ya'juj ou Ma'juj. C'est-à-dire que les insan qui vivent normalement, c'est que 10% de la race humaine. Et c'est pas le jour de Qiyama, avant le Qiyama, lorsque ce signe va apparaître, quand on dit « Hatta idha futihat Ya'juj ou Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun » Les versets qui stipulent qu'ils vont envahir ce monde. On a tous peut-être entendu des hadiths concernant Gog et Magog, qu'on dit qu'ils vont envahir ce dunya et tout détruire sur leur passage, et qu'ils seront tellement nombreux et tellement forts qu'aucun croyant n'a le droit de les affronter. Il n'y a plus de bataille à la fin des temps. Il sera interdit aux musulmans de livrer combat contre les Gog et Magog, parce qu'ils seront trop nombreux. Ils vont envahir, quand on dit que quand ils arrivent près d'un fleuve, ils sont capables de boire l'intégralité de l'eau du fleuve. C'est-à-dire que c'est un nombre impressionnant. Et quand on voit également que lorsqu'Allah Rabbul Izza exaucera les doigts de Isa alayhi salam, pour qu'ils meurent, parce qu'il n'y a pas de combat, et ils sont là, c'est une situation coincée. Il va invoquer Allah d'envoyer sa nusra. Allah Rabbul Izza va envoyer des insectes qui vont les piquer de leur cou. Ils vont mourir. Et preuve du grand nombre, du nombre impressionnant des Gog et Magog, lorsque un croyant va se porter volontaire pour quitter les endroits où ils étaient sous protection, pour voir où en est la situation, spectacle impressionnant, il va voir la surface de la terre remplie des cadavres de Gog et Magog, de cette race humaine, remplie. Et on peut dire que la victoire sur les ennemis, c'est la plus belle des récompenses, mais elle est à moitié. Parce que, certes, le danger est passé, mais la vie ne peut pas reprendre son cours. Parce que la surface de la terre est jonchée de cadavres d'êtres humains, de Gog et Magog. Et c'est là le deuxième doua de Isa alayhi salam, qu'Allah débarrasse ce dunya de ces cadavres, et puis il y aura des oiseaux, il y aura une pluie pardon, qui va balayer ce dunya. Et il est dit dans un autre hadith qu'ils vont laisser, donc après la destruction, les musulmans pourront utiliser leurs armes, les manches, etc., qui sont en bois, pour faire du feu pendant des années et des années. Preuve qu'ils sont armés, bien sûr, mais ils sont tellement nombreux qu'on peut utiliser le bois qui constituent leurs armes, pour faire du feu pendant des années et des années. Tellement, cette race, enfin, c'est la race humaine, cette portion de la race humaine est importante. Et l'autre commentaire, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, le savant disait également que c'est une preuve qu'à la fin des temps, les combats redeviendront de façon traditionnelle. Des épées, boucliers, lances, arcs, flèches. Et les gens se déplacent avec des rayas, des étendards. Ça, c'est la description des grandes guerres à l'époque de l'Antéchrist, de Dajjal. Et on voit là les armes également de Ya'juj et Ma'juj. Donc, pour revenir au hadith, ce hadith est plutôt rassurant que sur 100 insan, il y a 90 Gog et Magog. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas encore, mais qui apparaîtront à la fin des temps. Donc, d'où le verset « Qutila al-insan ma akfara » Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Et quelle est la plus grande des ingratitudes? Quelle est la plus grande des ingratitudes? C'est qu'Allah t'a créé, Allah te donne la santé, Allah te donne la nourriture, Allah t'accorde des bienfaits, et que la personne adore autre qu'Allah. Qu'il fait l'adoration d'autre qu'Allah. Et si je ne me trompe pas, c'est un hadith Qudsi, ça je vis au moins 12 ans, dit que parce que Allah Ta'ala dit que je crée, je nourris et ils adorent autre que moi. Ça, c'est le plus grand zulm. D'où le verset « Inna shirka la zulmun azim ». C'est la plus grande oppression, injustice, pardon. La plus grande injustice, c'est le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah, Azza wa Jal. Et en commentaire, parce qu'on ne va pas être trop long là-dessus, les Mufassirin disent également que le kufr, en plus d'être la plus grande des ingratitudes, le kufr, c'est également une preuve de l'ignorance et de l'égarement de la personne. Parce qu'Allah Azza wa Jal a envoyé tellement de signes dans sa création qui doivent nous rappeler qu'il existe un créateur et que ce créateur ne peut être qu'unique. Et l'être humain passe à côté de ces signes. Et dans le Coran, entre autres, nombre de versets qui prouvent l'existence d'un créateur. Des versets à propos de la création d'Allah, des versets, on pourrait dire, qui donnent une explication sur le fonctionnement de certaines créations qui ne pouvaient être connues d'un homme il y a 1400 années. On avait vu il y a quelque temps, je ne sais plus dans quelle sourate, lorsque les versets parlent du fœtus, de l'embryon, comment est-ce qu'il se développe, lorsque c'est une goutte de sperme qui devient quelque chose de visqueux, qui devient un caillot, qui devient un morceau de chair, qui devient un fœtus, quand l'âme pénètre ce fœtus, pour devenir un être vivant, pour devenir un être vivant et qui prendra forme. Les os vont se constituer, la chair, la peau, et ainsi de suite. Toutes ces étapes de la création et du développement du fœtus sont expliquées dans le Coran de façon claire et nette, pas par des métaphores, par des mots précis. Et à cette époque, aucune culture, aucune civilisation n'avait abouti à ce genre de recherche. Aucune civilisation n'avait compris comment est-ce qu'un embryon se développe. Parce qu'il n'y avait pas de machine, pas d'échographie, il n'y avait rien du tout. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, il le récite à travers les versets du Coran. Ça fait partie des versets miraculeux. Le Coran est miraculeux en lui-même, bien sûr. Parce qu'il reste jusqu'à la fin des temps inchangé, avec un style qui est inimitable. Tout ce qu'on avait expliqué il y a longtemps en introduction de tafsir. Mais ces versets-là, ce sont des versets qui défient l'entendement humain. Qui explique à l'homme des choses qu'aucune créature ne pouvait être en mesure d'expliquer à cette époque et que même certaines choses que jamais l'homme ne pourra comprendre à travers ses recherches ou par l'expérience. Le fœtus, l'équilibre de ce dunya par le biais des montagnes, l'existence de cette couche terrestre et des choses que nous ne connaissons pas encore, l'existence de sept cieux, peut-être qu'un jour, on va finir par le découvrir, Wallahu a'lam, mais au-delà de la lune, personne n'est allé plus loin, pour l'instant, et la lune, je ne sais pas s'ils ont été vraiment, ou alors c'était un film, Wallahu a'lam, Mars, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, ils vont peut-être tenter avec Snickers, peut-être qu'ils ont un peu plus de chance, on ne sait pas, bref, l'homme, il ne voit pas plus haut que le bout de son nez, donc pour le moment, selon les scientifiques, le ciel, c'est quelque chose d'abstrait. Il n'y a pas de ciel. Le ciel, pourquoi il est bleu? C'est le reflet de je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le ciel, comme quelque chose qui s'appelle la terre, ou qui s'appelle un arbre, autre chose. Mais, en tant que mu'min, nous savons que le ciel existe. Lors du voyage nocturne, le Prophète sallam arrive sur le dos du Buraq, avec l'ange Jibril, cogne à la porte de chaque ciel où il y a un ange gardien de chaque ciel qui demande qui est là, qui est avec toi, et ensuite il donne l'autorisation d'entrer. Et là il monte jusqu'au second ciel où il y a un autre ange qui est gardien du second ciel, et il y a différentes créatures qui restent dans chaque ciel jusqu'au dernier ciel. Ça, c'est une notion que nous, mu'mines, nous y croyons parce qu'Allah, Rabbul Izzah, l'a révélé dans le Coran et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a décrit dans les hadiths. Mais sur le plan scientifique, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore découvert. Qui peut me donner un exemple, autre exemple d'informations qu'il y a dans le Coran, mais qui n'a pas été découvert par les scientifiques. Un exemple très simple, hein? Barakallahu fik. C'était pas ça, mais là j'allais faire cette parenthèse. Il y a, je crois que c'était TF1, enfin je sais pas, il y a un lien Facebook, d'accord? Quelqu'un avait posté, c'était bien, il y avait un reportage sur le miel, dans l'actualité, j'ai pas regardé. Il parlait des vertus du miel, ça cicatrise, ça, c'est antiseptique, et ainsi de suite. Bref, dans le prophète alayhi salatu wassalam, vous l'avez expliqué à maintes et maintes fois. Et dans le Coran de la sourate An-Nahl, il est écrit fihi shifa'un lin-nas. Et il y a même expliqué comment est-ce que les abeilles font le miel. Ajib. Qu'Allah révèle. Wa waha rabbuk. Wahi. Allah révèle. Et en biologie, il y a un terme, ça. Ça fait très longtemps. J'ai oublié quand. C'est pas un peu comme l'instinct animal, mais c'est au-delà de l'instinct. Il y a tous les codes qui vont animer la vie de chaque animal. Ils savent exactement leur parcours, ce qu'ils font. Wa waha rabbuk ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali, jusqu'à la fin du verset. Où est-ce qu'Allah leur demande, leur ordonne de faire leur ruche? Ça peut être les montagnes, ça peut être les creux d'arbres, et ainsi de suite. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, avait été abordé par un sahaba qui dit que, voilà, mon frère, je ne sais pas si c'était mon frère ou mon fils, est très malade, il a des problèmes de ventre. Le prophète m'a dit, alayka bil asal, ou c'est lui-même. Il dit, bois du miel, consomme du miel. Personne ne voit le prophète, il dit encore, seconde fois au prophète d'Allah, je suis encore plus malade depuis que je bois du miel. Le professeur m'a dit que le miel est véridique, c'est ton ventre qui ment. C'est ton ventre qui est de le faux, mais le miel est véridique. Il lui a dit encore une fois, et il a fait, et à la troisième fois, il allait mieux. Il n'y avait plus de problème. Et en commentaire, certains savants, contemporains bien sûr, donnent comme explication que, sans le moindre doute, le miel, il y a shifa pour l'être humain, pour le système immunitaire. Il n'y a rien de mieux que le miel. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une parenthèse dans la parenthèse? Parenthèse dans la parenthèse. Après, on retrouve le fil, inshallah. Pareil pour le habbatu sauda, la graine de nigel, qu'on appelle ici le kalunji. La graine de nigel, les savants disent qu'il y a deux façons de le consommer. Soit on le prend comme un traitement de fond, enfin, les médecins parlent de ça, traitement de fond, d'accord? Comme il y en a qui prennent des antihistaminiques avant de dormir, pour les allergies. Dit que la graine de nigel va renforcer le système immunitaire. Et de cette façon, la personne ne tombera pas malade. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde tombe malade? Les enfants, ils sont fragiles parce que le système immunitaire est faible. Et donc, la graine de nigel, habbatu sauda, pour propos duquel le prophète alayhi salatu wassalam dit que ça guérit de tout, sauf la mort, ça renforce le système immunitaire. Je complète. Également, certains savants disent que le habbatu sauda, la graine de nigel, doit être consommée de différentes façons en fonction des pathologies, en fonction des maladies. Il y a des livres, il y a un livre médecine prophétique, on dit qu'on consomme de cette façon, soit vous les écraser, mélanger avec du miel, avec de l'huile d'olive, ou alors boire une cuillère d'huile de nigel le matin à jeun. Qui l'a déjà fait? Vous l'avez déjà fait? Vous avez déjà vu ça? Le matin à jeun? Franchement, il faut être costaud, hein. Parce que, oula, ça remonte, hein. Dans du thé, ça va. Les graines de le miel, ça va. Mais l'huile à jeun, mais le vrai l'huile, hein, pas ça qui soit de la Chine, avec tout le respect que j'ai pour les Chinois. Le vrai, hein. D'accord? Pur. Pas ajouté avec je ne sais pas quel produit chimique. Hein, ça remonte, hein. Vous avez des remontées gastriques et tout. Mais c'est excellent pour la santé. Bref. Donc, Shifa. Ça, ce sont des choses, des signes. Qu'Allah a révélé soit dans le Coran, soit à travers les textes prophétiques. Mais là où je voulais en venir, il y a une autre notion, une autre thématique citée dans le Coran et qui n'est pas compris par les scientifiques. Et c'est un casse-tête pour eux. C'est un casse-tête parce que c'est la frontière entre la vie et la mort. Je donne un indice. C'est la frontière entre la vie et la mort et ils n'arrivent pas à comprendre cette frontière. Quelle est la limite de cette frontière, alors que dans le Coran, c'est expliqué de manière très claire. Celui qui trouve, mashallah.
Le cœur?
Non. Vous avez dit quelque chose? Oui. Barakallah fik. L'âme. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Le ruh, c'est quelque chose de très simple. Islamiquement parlant, le ruh, l'âme. Islamiquement parlant, dans le Coran, dans les hadiths, on en parle de façon décomplexée, on pourrait dire. D'accord? C'est pas un truc incroyable, on n'arrive pas à comprendre. Non, très clair, le rouh, il rentre dans le fœtus de la maman un certain nombre de jours. Quand tu meurs, le rouh, il doit ressortir. Il y a des rouhs qui ne veulent pas sortir, donc il écoute. Ça des coups de botte. Les anges, ils frappent. Ça, c'est le rouh du kafir jusqu'à ce qu'il sorte du corps. Le rouh, il est pris par les anges. Si c'est un bon musulman, il met des incafanes remplis de parfums. Il monte jusqu'aux cieux. Les anges saluent la venue de ce rouh, de cette âme qui est embaumée, qui sent bon, parce que c'est l'âme d'un croyant. Il va se prosterner devant Allah. Il va recevoir l'agrément d'Allah. L'âme retourne dans le corps du défunt. Et il profite des bienfaits de la tombe avec la vision de le Jannah. Et dans certaines versions, l'âme va dans le ventre d'un oiseau du paradis, l'âme du mu'min. Donc, les étapes de l'âme, depuis sa création jusqu'à sa situation définitive. Et puis, pour le jour de Qiyamah, il dit que, dans certaines choses, il dit que les âmes, les rouh, sont rassemblées. Et lorsque l'ange souffle dans As-Sour, la corne une seconde fois, les âmes sortent. Dans certains hadiths, il dit que c'est comme un essaim d'abeilles, plein d'abeilles qui sortent en même temps, les âmes sortent et retournent de leur corps respectif. Donc, on en parle de façon très claire. Mais demander à un médecin, est-ce que mon âme va bien, est-ce qu'il n'y a pas de souci? On parle d'état d'âme. Ça veut dire que tu es un peu, tu as le spleen ou tu as le cœur gros. Mais l'âme, il n'y a pas. Aïe Abou Atoua, Hachin là-bas, ou alors, qu'on appelle l'autre côté là? J'ai oublié. La Bossib dit, voilà, j'aimerais faire un test de d'âme. D'accord? Un amomètre. Il n'y a pas tout ça. Vous dites que c'est quoi l'âme? Scientifiquement, ça n'existe pas. Et c'est un casse-tête. Parce que aucun scientifique ne peut donner une définition de la mort. Personne, aucun scientifique ne peut dire qu'est-ce que la mort. Islamiquement parlant, c'est quoi la mort? C'est lorsque l'âme quitte le corps. Mais c'est facile. Très simple, en cinq mots. Le scientifique, il ne peut pas comprendre. Il va dire que c'est dû à... Ça, il peut dire. C'est dû à un arrêt cardiaque. C'est dû à une rupture des vaisseaux, elle la protège. C'est dû à telle chose. Allez, mais quand le bouc du coup tranquillement, il meurt sans infarctus, sans arrêt cardiaque. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de définition de la mort parce qu'ils n'ont pas compris la notion de ruh, d'âme. D'accord? Donc, est-ce qu'on referme trois parenthèses pour revenir? Pourquoi est-ce que le kufr, c'est la plus grande injustice, on l'a dit? Pourquoi est-ce que le kufr également, c'est le plus grand égarement? C'est la plus grande bêtise de l'homme? C'est parce que celui qui reste dans cet égarement ne prend pas le temps de voir. Cette personne oublie de regarder, d'analyser. Il ne voit pas tout ce qu'il y a, tout ce qui est extraordinaire de la création d'Allah. Cela ne peut être présent, cela ne peut être constitué au hasard, sans qu'il y ait un créateur. Il y avait un bel exemple donné par un grand savant. Il dit que si quelqu'un ose parler de ce qu'on appelle en arabe « as-sudfa », que ça a été créé de façon hasardeuse comme ça, c'est un mélange de gaz, et puis le Big Bang, ça a donné ça, et puis tout et tout. Il dit que prenez des lettres de l'alphabet, quel que soit l'alphabet, arabe, français, what, prenez 10 000 A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z, mettez dans un grand sac, tout en est mélangé, et faites ressortir les lettres et alignez-les en rang, d'accord, alignez-les sur une même ligne. Est-ce qu'il y aura une histoire complète avec un thème, avec une introduction, avec des péripéties, des dénouements, une conclusion, une morale? Non, ça reste des lettres. Mais celui qui pense que tout existe comme ci, comme ça, au hasard, c'est la même bêtise. Il y a des choses qui sont palpables. On a compris c'est quoi une cellule. Combien de temps il nous a fallu pour comprendre? On a compris c'est quoi un atome. On a compris c'est quoi les ions, les cations, les je sais pas quoi, et ainsi de suite, et les complications. On a compris ces notions-là. Mais on n'a pas réalisé que ces choses-là, pourquoi est-ce qu'ils sont murakkab? Pourquoi est-ce qu'ils sont constitués de cette façon? Ils existent. Tu n'as fait que découvrir qu'ils existent. Mais tu t'es arrêté sur le fait que, ah oui, ils existent, sans penser comment est-ce qu'ils existent. Et c'est là que les scientifiques bloquent là-dessus. Les philosophes aussi bloquent là-dessus. Je me souviens, on avait un professeur de philosophie en terminale. On avait quand même 8 heures de philo par semaine, mashallah. Un professeur de philosophie qui disait que, elle le disait très clairement, la seule chose qu'on ne saura jamais, la seule chose à laquelle on n'aura jamais aucune réponse, et qui bloque également les scientifiques et les philosophes. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Allez, on va parler des gaz, on va parler telle chose, telle chose. Mais pourquoi il y a eu le premier truc? Pourquoi le premier truc existe? Il aurait pu ne pas exister. Parce qu'ils ne comprennent pas la notion de Al-Adam. Al-Adam, c'est l'inexistence d'une chose. Parce que scientifiquement, la matière crée la matière. Je parle de choses que je ne maîtrise pas là, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui apparaît tout d'un coup. C'est à partir de quelque chose, il y a autre chose. À partir de cette seconde chose, il y a une troisième. Et ainsi de suite. Mais le premier truc, ils ne peuvent pas te dire comment c'est venu. Impossible. C'est comme le mystère de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a eu avant, la poule ou l'œuf? La poule. Pourquoi? Parce que c'est la poule qui pond l'œuf. Mais cette poule, comment tu t'appelles? Daniel, la poule, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu avant, la poule ou l'œuf? L'œuf, pourquoi? C'est la poule qui pond l'œuf. Mais la poule devait être dans un œuf avant de devenir poule. On ne finira jamais. Ça s'appelle le mystère byzantin. On ne finira jamais. Parce que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre que avant il n'y avait rien du tout. Et Allah, et il y a eu la création. D'où les hadiths. Il n'y avait que Allah qui était établi sur son trône, qui était sur l'eau. Il n'y avait rien. Et Allah a décidé de créer. Parmi les premières créatures, il y a eu le qalam. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'Allah, Rabbul Izza, crée la race humaine, qui est la dernière des créatures. Les djinns existaient avant les êtres humains. Les anges existaient avant aussi. Donc ça coince. Tous ceux qui essaient de comprendre les choses avec uniquement leur esprit cartésien ne pourront jamais dépasser le bout de leur nez. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais pour qu'on réalise qu'il y a énormément de signes de le Coran qui rappellent à l'homme qu'il y a un créateur et que ce créateur ne peut être qu'unique. Parce qu'également, il y a des versets qui disent « Laukana fihima alihatun illallah » la fasadata, que s'il y avait un autre Dieu à part Allah, il y aurait opposition, qu'Allah nous protège de ce genre d'intiqad. Explique pourquoi également qu'il ne peut y avoir qu'un seul ilah, qu'un seul Dieu. Et en plus, les signes, tous les signes de la création qu'on retrouve dans le Coran et qui ne pouvaient pas être connus à l'époque de notre prophète Muhammad, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qutila l'insan ma akfara. D'accord? Comment ose-t-il donc renier l'existence de son créateur? Et Allah Azza wa Jalla va le rappeler d'où est-ce qu'il vient. Yani, tu refuses l'existence de ton Rabb, de ton Seigneur qui t'a créé, mais réfléchis. On ne te demande pas d'aller réfléchir à très loin. Regarde où te corps et essaie de te rappeler où étais-tu avant. Et le verset qui enchaîne, magnifique enchaînement, 18. Min ayyi shay'in khalaqa. De quoi Allah l'a-t-il créé? Min nutfatin khalaqa, d'une goutte de sperme. Il le crée et détermine son destin. Rappelle à l'homme, où étais-tu avant, ô être humain? Maintenant que tu te pavanes et tu es fier de ton intelligence et tu vas argumenter, tu vas remettre en cause l'existence de ton créateur, alors que si on remonte la pendule à 40 ans, à 50 ans, tu étais encore un bébé qui avait besoin de sa maman, autrement il mourait de faim. Si on remonte un peu plus, tu étais un fœtus. Et si on remonte encore, tu n'étais qu'une goutte de sperme qui est impure. Quand ça sort de l'homme, l'homme doit prendre un roussel, un bain. Si ça touche tes vêtements, tu ne peux pas prier avec. Parce que c'est considéré comme impur. Et comment tu étais impur? Tu es devenu un homme avec des facultés. Comment Allah t'a créé dans le ventre de ta maman, t'a donné, alhamdulillah, ce corps qui est parfait, avec la santé, le siha, la possibilité de réfléchir, la possibilité de choisir ce qui est propre à l'être humain. Même les anges ne choisissent pas, les animaux ne choisissent pas. Les anges ont été créés que pour l'adoration d'Allah. Ils n'ont qu'une tentation, ils n'ont qu'une envie d'aller vers le péché. L'homme, oui. L'homme, de par sa nature, aime les mauvaises choses. Et c'est son éducation spirituelle
et religieuse qui fera qu'il prendra une autre décision qui ira un peu à contre-nature. Choisir le bien plutôt que les choses qui sont mauvaises. Donc, où étais-tu? De quoi étais-tu constitué avant? Et maintenant, la personne ose renier l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et si on aurait voulu développer encore ça, il aurait fallu zapper le verset Faqaddara, parce qu'après, on explique les différentes étapes que, où étais-tu? Il était une coupe de sperme, Allah l'a créé. Après, il y a Amatahu, Allah lui donne la mort. Fa'aqbarahu, l'autre étape, c'est le qabr, la tombe. Anshara, la résurrection et les comptes. En commentaire, les fassins disent que nous avons dans ce, depuis le verset 18 jusqu'à, on va dire 20-21, les étapes de la création d'un être humain jusqu'à sa résurrection. Goutte de sperme, naissance, sa vie sur le dunya, la mort, la tombe, la résurrection. Et les savants disent, gardez toujours à l'esprit cette chaîne pour ne jamais penser qu'à un moment donné la chaîne s'arrête. Parce que la chaîne ne s'arrête jamais. Quand une personne ne croit pas en Allah et donc ne croit pas au jugement dernier, il pense que la chaîne va s'arrêter à la mort et qu'après c'est fini. C'est pour ça qu'il veut profiter de sa vie. Parce que selon lui, quand on meurt, il n'y a plus rien. Donc autant enjoy your life. Fais de ton mieux pour profiter de ta vie. Amuse-toi, fais ce que tu peux, parce qu'après c'est fini. Pour ça, le hadith dit Ad-dunya, sijnul mu'min wa jannatun lil kafir. C'est le paradis pour le mécréant. Parce que celui qui ne croit pas en Allah, il ne croit pas au paradis, il ne croit pas à l'enfer, il ne croit pas au jour de la résurrection, au jugement dernier. Donc, pour lui, la seule chose qui existe et qui compte, c'est cette vie. Il faut qu'il profite. Et même s'il a fait des erreurs, pas vu, pas pris. Si on t'a pas vu, ben c'est parti, tu continues ton chemin. Il n'y a pas la notion de péché, la notion de tauba, et ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas de dénouement après ça. Quand on meurt, c'est fini de toute façon. Alors que le mu'min, mashallah, il croit à la vie après la mort, il croit à la résurrection. Et c'est ça qui te permet de mieux comprendre cette première étape, le passage entre le moment où tu es vivant jusqu'à la mort. Parce que les étapes qui viennent après, ça représente 99% des étapes de la vie d'un être humain. Alors que l'étape sur cette terre, c'est 1%, et j'exagère, c'est moins que 1%. Parce que après ce 1%, c'est pas 99%, c'est combien de pourcents? C'est éternité pourcent. C'est l'éternité. Là, on peut mesurer que tu vis 75 ans. Mais ce qui vient après 75, c'est quoi? Après la mort, c'est l'éternité, ça ne s'arrête jamais. Et là, il y a une petite latif, hein? Il y a quelque chose qui est magnifique, que les Mufassirines disent que, regardez quand Allah Azza wa Jal parle de la, là, on n'a pas besoin du tafsir, on va plutôt revoir la traduction française, quand Allah Ta'ala parle de la vie de l'homme. Alors, si je retrouve le verset, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, oui, que périsse l'homme qu'il est ingrat, de quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Donc là, c'est le début de la création de l'homme. Il le crée et détermine son destin, puis il lui facilite le chemin. On va voir ça peut-être la prochaine fois. Lui facilite le chemin, c'est la naissance de l'enfant, son développement. Quand il est enfant, on ne parle plus de l'embryon. Puis il donne la mort. C'est-à-dire, on parle de l'enfance, quand il découvre la vie, et il trouve la guidée. Thumma amatahu. Et le thumma, ça veut dire et, et. Mais c'est pas comme le et en français, c'est un et et d'enchaînement. C'est quand il y a ça, et tout de suite après il y a ça. Thumma. Vous voyez, la relation, elle est très rapide. On parle de la vie, thumma, et immédiatement de sa mort. Ce qui prouve que c'est une étape qui est très courte. Ça va très vite. L'homme naît, il vit quelques années et c'est déjà le moment de retourner auprès d'Allah. Ça va tellement vite, mais c'est tellement important. Tellement important parce que c'est ces quelques années-là qui vont déterminer ton akhira, ton éternité. Est-ce que tu seras un homme heureux dans l'au-delà ou un homme qui sera malheureux? On va s'arrêter à la pause ce soir, Inch'Allah, à 40 minutes. Donc là, on a revu un petit peu quelques points qu'on avait cités en introduction sur Abbas wa Tawalla. Et on a vu l'ingratitude du kafir, de ceux qui ne croient pas en Allah, que c'est le plus grand vol, la plus grande injustice, mais c'est également le plus grand égarement, parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas les signes qu'Allah a mis de ce dunya, également les signes qu'Allah Rabbul Izza a révélés dans le Coran. Et lorsqu'Allah reproche à l'homme de ne pas croire en lui, Allah Rabbul Izza rappelle à l'homme qu'il se souvienne comment est-ce qu'il était avant qu'Allah l'a créé d'une goutte de sperme, et ensuite il est devenu humain, il a grandi, et immédiatement après, il retourne vers Allah. On va compléter ça, inshallah, la prochaine fois. Wa tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.